pouvoir ouvrir avec vous la parole de Dieu au livre du Deutéronome. Nous lirons une partie du chapitre 33. C'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé pour eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran et est venu des cinq myriades, de sa droite sortit une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main, et ils se tiennent à tes pieds, reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob, et il a été roi en Jeshurun, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël, que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient en petit nombre. Et ceci pour Judas. Et il dit, Éternel, écoute la voix de Judas et amène-le à son peuple. Qu'il combatte de ses mains pour lui et soit lui en aide contre ses ennemis. Et de Lévi, il dit, tes Thummim et tes Urim sont à l'homme de ta bonté que tu as éprouvé à Massa et avec lequel tu as contesté aux eaux de Meriba. Qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu, qui n'a pas reconnu ses frères, et il n'a pas connu ses fils, car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Éternel, bénis sa force, et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui, et de ceux qui lui haïssent en sorte qu'il ne puisse plus se relever. De Benjamin, il dit, le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira tout le jour, il habitera entre ses épaules. Et de Joseph, il dit, son pays soit béni par l'Éternel de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée, de ce qui vient des profondeurs qui gisent en bas, et du plus précieux des produits du soleil, et du plus précieux des produits des mois, et de ce qui croît sur le sommet des montagnes d'ancienneté, et du plus précieux des collines éternelles, et du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères, ou à la note, celui qui a été Nazaréen. Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau, et ses cornes sont des cornes de bœuf, avec elles il poussera les peuples ensemble, jusqu'au bout de la terre. Et nous arrivons. Quand nous ouvrons le chapitre 33 de ce livre, il y a 39 ans et 11 mois que le peuple a franchi la mer Rouge. Nous sommes arrivés à la frontière du pays de Canaan. Moïse va monter sur la montagne dans le chapitre 34, sur le sommet du Pisgah. L'Éternel va le recueillir. Le peuple va mener deuil un mois. Et ensuite, avec Josué à leur tête, ils vont franchir le Jourdain, l'arche, et vont passer la première. Moïse est donc à la fin de sa carrière. Cet homme bien remarquable, comporte des enseignements, des encouragements pour nous du plus haut prix. C'est un serviteur de l'Éternel. Dieu se plaît à l'appeler mon serviteur Moïse. Il a été fidèle dans toute ma maison. Et pourtant, Dieu n'a pas répondu à une prière, une supplication instante de Moïse. Moïse qui aurait tant souhaité passer le Jourdain avec le peuple et contempler l'héritage que Dieu lui avait choisi. Ce beau pays, ruisselant de lait et de miel, un ornement entre tous les pays, Moïse aurait tant aimé contempler ce pays de montagne, cet ornement entre tous les pays. Et l'Éternel lui a dit, Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise à ton égard. C'était quelque chose de très douloureux pour Moïse. Si on lit attentivement, chers amis, nous allons dire cela rapidement en passant, comment invoque-t-il l'Éternel pour présenter sa prière? Eh bien, il va employer une expression qui n'est pas courante dans l'Ancien Testament. Quelques hommes seulement l'ont employé pour s'adresser à l'Éternel. Et le premier qu'il a employé, c'est le père de nous tous, c'est-à-dire Abraham. Quand Dieu va se révéler à Abraham, le cœur d'Abraham va sourire de telle manière qu'il va s'écrier « Seigneur éternel ». Et qu'est-ce que veut dire l'expression « Seigneur éternel » ? Et c'est bien la même expression que Moïse a employée pour dire « Seigneur éternel ». Pour employer les arguments les plus propres à faire fléchir le cœur de Dieu, Moïse retourne à cette expression employée par Moïse et dit à l'Éternel, à Dieu, Seigneur éternel. Il n'y a que dans notre langue que l'Éternel est connu, car l'équivalent de l'Éternel, nous le savons bien, c'est Jéhovah. Exode 6 ne laisse aucun doute, le traducteur montre bien que l'Éternel et Jéhovah, c'est un seul et même terme. C'est un Français, un des premiers traducteurs de la Bible en français, Olivier Tan, en 1530, par là, quelques années près, c'est lui qui a introduit le terme éternel comme étant l'équivalent de Jéhovah, un terme prestigieux qui ne se trouve, que l'on ne trouve que dans notre langue et peut-être en italien, paraît-il. Mais dans les langues anglo-saxonnes et dans toute autre langue, l'éternel, c'est Jéhovah, selon Genèse 3, le nom que Dieu prend lorsqu'il s'engage vis-à-vis de l'homme. Jéhovah, je suis celui qui suis, voilà l'équivalent. J'étais, je suis. Je serai, je suis. Personne d'entre nous ne peut dire je suis. Dès que j'ai dit je suis, je ne suis déjà plus ce que j'étais. Le temps nous emmène, le temps nous emporte. Mais Dieu peut dire je suis celui qui suis, c'est l'éternel présent. J'étais hier, je suis. Je serai demain, je suis. J'étais ce que je serai, je serai ce que j'étais. Pour Dieu, le temps ne compte pas. C'est l'équivalent de Jéhovah. C'est un nom que Dieu se donne à lui-même pour montrer sa prééminence, sa grandeur, sa majesté lorsqu'il s'engage vis-à-vis de l'homme en lui faisant des promesses. Mais si nous allons plus loin, éternel, Jéhovah, c'est un seul et même terme. C'est-à-dire que l'Éternel prend ce que Jéhovah contient comme expression d'une densité extraordinaire. La prééminence de Dieu, l'éternité de Dieu. Mais Jéhovah se traduit aussi d'autres manières. Jéhovah, Jéhoshua, Josua, Josué, Jésus. En fait, c'est un seul et même nom. Tu appelleras son nom Jésus, Jéhovah Sauveur. Ceux, et il est assez rare, ceux qui possèdent une première traduction de notre Nouveau Testament en français, l'édition de 1846, peuvent vérifier dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, JND, traduit encore, comme les Anglais le font, si Josué leur avait donné le repos, puisque le peuple n'a pas connu le repos promis avec Josué, étant donné les conditions que nous connaissons bien, mais dans l'Épître aux Hébreux, en anglais, et dans cette première édition du Nouveau Testament français, si Jésus leur avait donné le repos, car Jésus, Josué, est la traduction de Jésus, la traduction grecque du nom de Jésus. Vous voyez, de sorte que nous répétons Jéhovah, Josua, Jéhoshua, Josué, Jésus, c'est un seul et même nom. De sorte que quand Moïse disait à l'Éternel, Seigneur éternel, que lui disait-il? Il lui disait l'équivalent de Seigneur Jésus, le nom que Dieu allait prendre en s'anéantissant, en s'abaissant, en envoyant son Fils dans ce monde. Y avait-il une expression plus propre à toucher et émouvoir le cœur de Dieu quand Moïse lui dit « Seigneur éternel, laisse-moi donc entrer dans ce bon pays. Il y a 40 ans que je souffre au désert avec ce peuple, et puis voilà que tu me fermes l'entrée de ce pays. » Vous voyez, chers amis, l'Éternel n'a pas répondu. Cela fait partie des mystères de Dieu, des réponses, des refus que Dieu fait à certaines prières. Mais est-ce là la fin de Dieu? Qui allons-nous trouver sur la montagne avec le Seigneur au jour de sa transfiguration, lorsque il nous est donné d'assister à un éclat de la gloire que nous allons contempler tout à l'heure? N'est-ce pas précisément Moïse et Élie, deux serviteurs de Dieu qui ont été découragés au point de souhaiter être recueillis de la scène? Le poids du service était tel pour eux, tout ce qui les entourait, tout ce qui les accablait, pesait tellement sur eux qu'ils disent au Seigneur, « Mais Seigneur, reprends-moi, je ne puis plus supporter tout ce poids. » Eh bien, ce sont ces deux hommes que nous voyons sur la montagne, avec le Seigneur, transfiguré, déjà vu glorifié et parlant avec lui, sans aucun effroi, sans aucune crainte quelconque, parlait avec lui, familièrement, et de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'Éternel va donner d'autre part une compensation extraordinaire à Moïse, il faut encore en dire un mot, il va le faire monter sur la montagne du Pisga, et il va lui faire faire un arc de cercle de 180 degrés, il va lui montrer au nord, au couchant, au sud et à l'est, toute l'étendue, toutes les beautés de ce pays. Il va les découvrir avec Dieu. Il était avec le Seigneur sur la montagne et Moïse n'a rien perdu. Demain, il jouira dans la partie céleste du royaume de toute la gloire que le Seigneur lui a acquise. Mais nous comprenons ainsi, en ouvrant le chapitre 33 du Deutéronome, quels étaient les sentiments de Moïse. Frustré qu'il était d'entrer dans ce beau pays. Et pourtant, chers amis, nous touchons ici un point très sensible, et cela nous touche les uns et les autres, sans doute ceux qui sont plus âgés, les frères en particulier, qui ont quelques services à remplir. Car Moïse a dit plusieurs fois, vous pouvez voir au chapitre 3 et au chapitre 4, en rappelant toute l'histoire du désert au peuple, puisqu'on est arrivé au bord du Jourdain, Moïse dit, c'est à cause de vous, je le répète plusieurs fois, à cause de vous, étant donné le chagrin que vous m'avez fait, l'emportement dans lequel je me suis laissé aller à cause de vous, c'est à cause de vous que je ne puis pas entrer dans le pays. Mais y a-t-il pour autant du ressentiment, de l'amertume dans le cœur de Moïse? Il rappelle des faits, sans doute, mais vous voyez le cœur de l'homme de Dieu, ce que la grâce peut produire dans le cœur, pas d'amertume, pas de ressentiment, et avant de s'en aller, avant de grimper sur la montagne du Pisga, qu'est-ce que Moïse va faire? Il va bénir tout Israël. Voilà ce que la grâce de Dieu peut opérer dans un cœur. Alors que ce sont ceux qu'il va bénir qui sont la cause de sa souffrance, de son chagrin, de son désappointement profond de ne pas passer le Jourdain pour voir ce beau pays de la promesse. N'est-ce pas admirable, chers amis, ces sentiments de Moïse au moment où il va être recueilli sur la montagne? Il se plaît, il éprouve ce besoin, cette joie en communion avec Dieu, avec le cœur de Dieu, de bénir le peuple. Car c'est bien là l'intention de Dieu. Au-delà de tout ce qui en empêche l'accomplissement, toutes nos erreurs, toutes nos sottises, le dessein de Dieu, c'est de bénir. La fin de Dieu, c'est cela. Quel bonheur de connaître ainsi un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Car s'il doit châtier, c'est une heure étrange, inaccoutumée. Mais le besoin du cœur de Dieu, le désir de son cœur, c'est de bénir, c'est de rendre heureux. Bien voilà Moïse à l'œuvre pour donner au peuple de la part de Dieu la bénédiction qu'il découvre dans les profondeurs du cœur de Dieu à l'égard de ce peuple. Cela sera réalisé demain. Aujourd'hui, évidemment, nous le savons bien, ce peuple que Dieu veut bénir, c'est le peuple, sans doute, le meilleur de la terre, le plus intelligent, le plus propre à connaître de la part de Dieu toute la bonté de Dieu. C'est le peuple le plus méchant de la terre. Il n'y a pas de peuple plus méchant sur la terre. C'est le peuple à qui Dieu avait confié ses oracles, qu'il avait enrichi de tant de manières et qui va planter la croix du Seigneur. Voilà ce qu'est ce pauvre peuple. Et en d'autres termes, personne ne peut l'oublier. Voilà ce que je suis, voilà ce que nous sommes. J'y ai dit quelque part dans une méditation, pourquoi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Quelle est l'explication? Aussi ramassée que possible. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que votre cœur, ce que mon cœur, ce que notre cœur est. Voilà. L'explication la plus dense, la plus ramassée, mais la plus précise. La croix du Seigneur, eh bien, elle trouve sa raison dans ce que je suis dans mon cœur, dans ce que vous êtes dans votre cœur, dans ce que nous sommes chacun dans notre cœur. Mais c'est un tel peuple que Dieu veut bénir. Au-delà du Lohami qui repose sur lui maintenant, demain Dieu accomplira toutes les promesses qu'il aura faites. Mais Dieu opérera dans sa grâce une œuvre de repentance pour que Israël jouisse dans chaque tribu de ce que Moïse dit ici. Mais il faudra pour cela qu'il rentre en lui-même, qu'il fléchisse sous le poids d'une épreuve terrible qui va s'abattre sur lui et dont le Seigneur parle plusieurs fois en disant, en l'appelant la grande tribulation, et en disant, il n'y en a point plus de semblable sur la terre, et il n'y en aura plus jamais par la suite. Ce que ce pauvre peuple a souffert, c'est terrible. Depuis le commencement de son histoire, le premier grand génocide de l'histoire, c'est contre lui, en Égypte. Les Égyptiens qui veulent faire disparaître Israël. Satan est à l'œuvre dès le commencement contre ce peuple. Pourquoi toutes les nations du monde sont concernées par Israël? On ne parle pas, par exemple, d'un petit pays comme le nôtre ou comme le Luxembourg. Si nous avons nos antipodes, si nous parlons du Luxembourg, personne, on ignore à peu près totalement l'existence de tel petit pays. Mais personne n'ignore l'existence d'Israël. Il est au cœur de tous les débats des nations. C'est la preuve la plus formelle qui soit que c'est le peuple de Dieu. Tout le monde est concerné par Israël, par les actes d'Israël, par la position d'Israël, par la politique d'Israël. Toutes les nations sont concernées. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Pourquoi a-t-il tant souffert au cours de son histoire? parce que c'est le peuple de Dieu. Satan sait bien que le libérateur doit sortir du sein d'Israël, que la semence de la femme qui allait lui briser la tête devait sortir du sein d'Israël, faire partie de cette lignée de David. Et un jour, il n'y avait plus que dans cette lignée de David, un petit garçon qui avait quel âge ? 1 an. Quel faible maillon pour venir de David à Christ. Le petit roi Joas avait été sauvé miraculeusement par sa tante de l'affreux massacre de cette femme, opéré par cette femme Athalie, sanguinaire. Il n'y avait plus qu'un petit garçon d'1 an pour la sauver. Satan est presque réussi. Mais la chaîne, si faible que soit le maillon de Joas, continuait jusqu'à Christ. Et dans sa défaite apparente, Satan pensait avoir remporté la victoire. Dans sa défaite apparente, y a-t-il défaite du total, apparemment, que la croix, quelqu'un qui meurt sur la croix. Mais c'est là que Satan est vaincu. C'est en vertu de la croix que Dieu pourra accomplir toutes les promesses qu'il a faites, mais à condition qu'Israël passe par la repentance. Personne ne peut supposer un instant que ce sont des souffrances qui seront infligées à Israël demain, qui seront rédemptrices, pas du tout. Mais par la tribulation, leur cœur sera amené à se tourner vers le Seigneur. La main qui va s'appuyer sur eux, au cœur de ces événements tragiques entre tous, cette main qui va s'appuyer sur eux va les amener au pied de la croix. Et ils vont découvrir ce qu'Ésaïe 53 est pour eux aujourd'hui incompréhensible. Ils vont le découvrir lumineusement. Ils vont dire, mais c'était donc bien lui, le Messie. Et nous l'avons conduit comme une brebis à la boucherie. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a seulement ouvert sa bouche pour affirmer ses droits devant Pilate et devant Caïphe. Ses droits messianiques et ses droits divins. Il a affirmé 2 fois qu'il était bien le roi d'Israël et qu'il était le fils de Dieu. Et c'était signé sa condamnation à mort. Mais il n'a pas répondu à toutes les autres accusations. Pilate et Caïphe s'étonnaient, mais tu n'entends pas de combien de choses ils rendent témoignage contre toi. Le Seigneur n'a pas répondu. Sinon, 7 fois la chose est dite, sinon pour déclarer qu'il était bien le roi d'Israël et qu'il était bien le fils de Dieu. Devant Pilate et devant Caïphe. Mais chacune de ces déclarations, c'était l'équivalent d'un arrêt de mort. Et c'est en vertu de la croix qu'ils vont bénéficier de tout ce que Moïse leur a dit et de tout ce que les prophètes ont annoncé. Mais leurs souffrances, ne sont donc pas des souffrances rédemptrices. Mais par celles-ci, Dieu les amènera au pied de la croix. Et c'est en vertu de la croix, comme pour nous, qu'ils vont connaître la grâce de Dieu. Alors, vous voyez, comme il est bien réel ce que Paul écrira, où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Par l'acte le plus ignoble qu'ils ont commis, et qui les souille à tout jamais, eh bien, Dieu va leur faire grâce. Et va leur ouvrir tous les trésors de son cœur. Bien, Moïse annonce ici ces trésors. Mais nous n'aurons pas le temps de monter dans tous les détails, il nous faudrait bien plusieurs réunions. Nous allons faire quelques points saillants. C'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël. D'abord, revenons en arrière, Dieu avait proposé que le peuple entende la bénédiction à partir d'une montagne, prononcée par 6 tribus. Les enfants des femmes, les épouses de Jacob et de Rachel en particulier. Et sur une autre montagne, celle des Baals, on devait entendre 6 tribus prononcer la malédiction. Remarquons, ce sont les fils des servantes et 2 fils de Léa qui sont sur la montagne des Baals pour prononcer la malédiction, et les autres fils de Jacob sur la montagne de Garizim. Et autant l'une est verdoyante, paraît-il, pour les voyageurs qui peuvent en faire une description, autant l'une est agréable et verdoyante, autant l'autre est abrupte et inspire quelque chose d'effrayant. C'est la montagne des Baals. Je crois que dans le chapitre 27. Et qu'entend-on sur chacune des montagnes ? Ah, passe sur la montagne des balles. Malédiction, maudit, 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 la loi n'apporte que la malédiction. Et sur la montagne de Garizim, nous écoutons pas un mot, pas un mot. Aucune tribu ne prononce une parole de bénédiction pour le prophète. Parce que sur le pied de la chair, Dieu ne peut pas bénir l'homme. Paul écrira, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. La chair et Dieu sont des ennemis irréconciliables. La chair et Dieu sont en parfaite opposition. La chair en moi, c'est ce principe de désobéissance, ce principe d'opposition à Dieu qui fait, qui aime faire ce que Dieu défend parce que c'est Dieu qui le défend. Je suis tel dans ma nature et je ne peux pas la changer. L'Éthiopien ne peut pas changer sa peau et le léopard ne peut pas enlever sa peau. Le Seigneur dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ne peut pas être changé. Pour ne pas améliorer la chair, on peut l'éduquer, on peut la camoufler, on peut l'édulcorer, mais ce qui est chair, et Dieu dit, il n'y a pas de différence. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. De sorte que nous n'entendons aucune parole de bénédiction prononcée sur la montagne de Garizim par un peuple ou pour un peuple dans la chair. Impossible que Dieu fasse hériter l'homme d'une bénédiction quelconque sur le pied de ce qu'il est en lui-même. Que faut-il pour ça? Il faut la nouvelle naissance. Dieu doit bénir et bénir toutes les richesses que son cœur contient, et les bénédictions les plus hautes sont celles que nous possédons en association vivante avec Christ dans les lieux célestes où Dieu nous voit déjà assis en Christ, mais dans une nouvelle position, c'est-à-dire une nouvelle création. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, les meilleures qui soient, dans les lieux célestes, et assurés dans la personne la plus élevée, la plus glorieuse qui soit, en Jésus-Christ. Mais pour la chair, rien. De sorte que, comment Dieu va-t-il bénir Israël? C'est Moïse qui nous donne le secret ici. C'est la bénédiction dont Moïse bénit les fils d'Israël avant sa mort. Et en quelque sorte, Dieu nous introduit, Moïse étant un type si précieux du Seigneur Jésus, nous introduit avec Christ au-delà de sa mort, en vertu de laquelle ces bénédictions pourront être données. Aucune prononcée dans le chapitre 27 sur la montagne de Garizim, comme la chose était proposée. Le peuple s'est montré incapable, l'homme est incapable de se hausser au niveau où Dieu pourra le bénir. Impossible. Mais Moïse, celui qui est le plus grand que Moïse, il a dit, Dieu vous suscitera un prophète tel que moi. Celui dont Moïse a l'image, lui, va introduire, va poser, va établir un fondement impérissable sur lequel Dieu peut rencontrer l'homme, l'accueillir et le bénir selon le propos de son cœur. La bénédiction de Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Un homme de Dieu. La parole n'est pas très... Comment allons-nous dire? Nous disons plutôt l'inverse. La parole est assez avare de ce terme. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont été appelés hommes de Dieu. Mais Moïse est un type de celui qui allait être à la fois homme et Dieu en perfection. Moïse est un homme de Dieu, mais il est l'image de celui qui allait venir dans ce monde distinctement Dieu et véritablement homme. Moïse en est la figure. Moïse, type de Christ, Moïse qui a souffert comme Christ. Bien entendu, les souffrances de Moïse ne sont qu'une illustration de celles de Christ. Par où commence l'histoire de Moïse? Quelqu'un, nos jeunes amis ont-ils noté cela? Quelle est la première mention que l'Esprit de Dieu nous fait de l'histoire de Moïse? Ce petit garçon qui est accouché dans un petit panier, c'est un petit garçon qui pleurait. Vous voyez, la première mention de Moïse, un petit garçon qui pleure, nous montre déjà quelle serait la carrière de Moïse. Car servir, c'est souffrir. qui en a été le modèle, évidemment, c'est lui. L'Esprit de Dieu nous parle des souffrances qui devaient être sa part, mais aussi des gloires qui suivraient. Et Moïse, nous l'avons déjà vu sur la montagne, Moïse jouit maintenant du repos et bientôt, après sa vie de souffrance et de service, jouira de tout ce que Dieu avait en réserve pour lui, compris attaché au service fidèle qu'il a rendu. Moïse qui a été fidèle dans la maison. Eh bien, Moïse, homme de Dieu, donc une image de Christ qui vient pour bénir son peuple, par lequel Dieu pourra bénir son peuple, malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce qu'il a fait. Et nous disons la manière dont il va venir, dont il allait venir, c'est celui qui allait être homme et Dieu, dont Moïse n'est qu'une faible image. Comment allait-il venir ? Là. S'arrêter sur cet thème, c'est toute une méditation. Et c'est un prix très grand pour nos âmes. Oui, la bénédiction de Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Tandis que lui, ce sera. La bénédiction de Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Tandis que lui, ce sera par sa mort, à travers sa mort, au prix de sa mort. Bénédiction que Dieu allait donner à son peuple, à chacun de nous, au prix de la mort de son Fils. Acte 20, Paul nous dira, l'assemblée que Dieu, et c'est là que nous avons les trésors de Dieu les plus riches qui nous sont révélés, quel est le chef-d'œuvre de Dieu ? La création, si grande, si belle, sortie des mains de Dieu, lorsque les fils de Dieu éclataient de joie, ce n'est pas le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'Église, la nouvelle création, au centre de laquelle il y a Christ et l'Église. C'est cela le chef-d'œuvre de Dieu. L'assemblée que Dieu s'est acquise au prix du sang de son propre Fils. Avant sa mort pour Moïse, par sa mort avec Christ. Et comment va-t-il venir ? Vous voyez les expressions ? L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé pour eux de Séhir. Tâchons de ne pas nous encombrer autour de détails. Mais qu'est-ce que veut dire Sinaï ? C'est donc la montagne de la loi, montagne couverte de feu, sur laquelle on entendait la voix de Dieu, la trompette de Dieu. Et Moïse était tellement épouvanté, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le révèle, qu'il dit « J'étais ». En entendant cette voix, le son de la trompette et le feu dévorant sur le sommet de la montagne, j'étais épouvanté, dit-il, et tout tremblant. Et le peuple dit que nous n'entendions plus cette voix car nous allons mourir. Donc, un lieu où la voix de Dieu se fait entendre, où les droits de Dieu s'affirment sur cette montagne abrupte, montagne inculte qui est un lieu terrible. Eh bien, n'est-ce pas une image de ce qu'est Israël lorsque Christ est venu ? Est-ce qu'Israël n'est pas illustré dans ce lieu sans aucune fraîcheur, sans aucune bénédiction, sans rien qui réjouisse le cœur, rien que des ténèbres, rien que ce qui épouvante ? C'était ce qu'Israël avait venu. Il est venu de Sinaï. N'est-il pas sorti comme une racine d'une pierre aride ? Et Sinaï n'est-il pas ici l'expression, le symbole de cette terre aride de laquelle ce rejeton allait sortir d'Israël, devenu pour Dieu une terre aride, et non seulement une terre aride, mais la deuxième. Il est venu de Séhir. Séhir, Édom, un pays où il n'y a que des ennemis pour Israël. Nous les connaissons bien l'histoire d'Ésaü, l'histoire d'Édom. Eh bien, il est venu chez qui ? Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Israël, moralement, était devenu Édom, un pays hostile, un pays ennemi de Dieu, un pays qui allait mettre à mort le Fils de Dieu venant lui apporter la grâce et la bénédiction. Voilà où il est venu. L'Éternel est venu pour eux. À Sinaï, à Séhir, comme cela est évocateur. Mais tout en étant confronté avec ces lieux qui rappellent ce qu'Israël était moralement, vous avez vu, chers amis, ce que nous avons ensuite. Mais il a resplendi de la montagne de Paran. Il est venu des cinq myriades. Il a resplendi. Il est venu. Comment Paul pourrait-il dire ? Et il est venu. Il allait venir dans l'Ancien Testament. Il était annoncé. Et Paul dira, et il est venu, car l'ange avait dit, je vous annonce un grand sujet de joie, car aujourd'hui dans la cité de David à Bethléem, vous êtes un sauveur. Et il est venu. Il nous a annoncé la bonne nouvelle de la paix à nous qui étions près des Juifs et à nous qui étions loin des nations. Il est venu, l'expression plusieurs fois répétée, et en même temps, il est venu des saintes myriades. Il a quitté le ciel, la gloire suprême. Et non seulement cela, mais dans l'expression que nous avons là, il a resplendi. Quel resplendissement que sa venue dans ce monde! L'Épître aux Hébreux nous l'introduit ainsi. Il est venu, resplendissement de la gloire de Dieu, empreinte de sa substance, dans l'abaissement, dans la souffrance sans doute, mais le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance venant des saintes myriades. Alors, la première chose qu'il a fait, c'est de donner la loi dans l'Ancien Testament. Mais tout de suite, Moïse nous fait faire un pas bien grand au-delà de la loi, et que nous dit-il ? Oui, voilà le cœur de Dieu. Sans doute il a donné une loi de feu. Fallait que le peuple soit mis à l'épreuve. Mais tout de suite, oui, c'est une affirmation divine. Il n'y a pas de doute à cet égard pour chacun de nous. Oui, il aime. Voilà la nature de Dieu. Oui, il aime. C'est ce qu'il est en lui-même. C'est ce qu'il est dans sa nature. Et c'est ce que Moïse, déjà dans l'Ancien Testament, veut imprimer dans notre cœur. Dieu est amour. Oui, il aime les peuples, toutes les tribus d'Israël, chacun d'eux, sans différence, comme chacun de nous, sans distinction. Comment parlera-t-il quand il sera sur la scène ? Parlera de son amour. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Mais aux disciples, pendant 3 ans et demi, il a été avec eux. Que de choses ils ont pu dire, ils ont pu faire, qui ont affligé son cœur. Mais que dira-t-il avant de les quitter ? Je vous aime, oui, sans doute, mais je vous ai aimé. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Pendant tout ce temps, malgré votre incompréhension, malgré tant de choses qui ont manifesté ce que vous étiez vous-même, moi je n'ai pas cessé de vous aimer. Je vous aime, et je vous aime, et je vous aimerai pendant toute l'éternité, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est beau de voir que le Seigneur ne dit pas seulement « je vous aime », mais « je vous ai aimé depuis le premier jour ». Et « je vous aime maintenant » et « je vous aimerai toujours ». Oui, il aime les peuples, les tribus d'Israël, comme il aime chacun. Dieu nous aime, le Père lui-même vous aime. Et nous demandons, Seigneur, comment Seigneur, le Père nous aime-t-il ? Eh bien, le Père vous aime comme il m'a aimé. Et moi, je vous aime comme le Père m'a aimé. Pouvons-nous trouver une mesure plus grande ? Elle nous confond, elle nous amène à nous prosterner. Aimer du Père, aimer du Fils. Paul dira, lui, en parlant collectivement en assemblée, frère, aimé de Dieu, frère, aimé du Seigneur. Dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, l'une s'adresse au frère aimé de Dieu, l'autre au frère aimé du Seigneur. Oui, il aime les peuples. Alors, quelle est la conséquence pour eux quand il y a un enchaînement ? Oui, il aime les peuples. Quelle est la conséquence pour eux ? Qu'avons-nous à craindre ? Nous pouvons être ébranlés, bien entendu. Et c'est bien facile de le dire, mais c'est autre chose de le réaliser. Toutefois, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas un homme qui le dit. Oui, il aime les peuples et tous ses saints sont dans sa main. Tous ses saints sont dans sa main. Et le Seigneur parle de sa main et Dieu parle de sa main dans l'évangile selon Jean. Qui pourrait les ravir de nous? Nous le chantons quelquefois. Nous le chantons peut-être quelquefois distraitement. Qui les ravirait de ta main? C'est la sécurité éternelle du croyant. Il aime les peuples.
Il l'a montré dans le don de son Fils, et en même temps, leur sécurité éternelle est assurée. Et écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui pourra nous soustraire l'amour de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Oui, il aime les peuples, tous les saints sont dans sa main, tenus dans sa main, qui pourrait les ravir de sa main. Voyez comme c'est beau, l'amour de Dieu, et ensuite la conséquence, la sécurité éternelle. Et maintenant, le côté qui vous concerne, qui me concerne, qui nous concerne les uns et les autres, comment montrons-nous que nous jouissons de cet amour et de la sécurité dont nous bénéficions en Christ? Comment le montrons-nous? Eh bien, la suite de le dit, ils se tiennent à tes pieds. C'est la dépendance. Ils se tiennent à tes pieds, ils vont, autrement dit, à la réunion de prière, ils se tiennent à tes pieds, et ils vont à la réunion, ils reçoivent tes paroles, ou le ministère, si faiblement que ce soit, s'exerce pour la bénédiction de nos âmes. Et nous, si nous recherchons la présence du Seigneur, indépendamment des faibles moyens que nous avons, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors, oui, c'est le côté humain, ils se tiennent à tes pieds, c'est l'attitude de Marie, et en même temps, ils reçoivent ses paroles. Nous ne pouvons pas vivre sans manger. Nous ne pouvons pas vivre sans subsistance. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors voilà, la nourriture du croyant, la parole de Dieu, la nourriture du nouvel homme, la manne qui descendait du ciel, le vieux blé du pays d'autre part, le grain rôti, la nourriture du croyant. Que de choses précieuses. Maintenant, après cela, nous avons les tribus qui sont, pour avancer un peu, les tribus qui sont nommées. Il y a Ruben d'abord, le premier-né. L'ordre n'est jamais donné de la même manière. Vous avez peut-être lu cette remarque de notre frère Henri aussi. Je crois qu'il y a 22 fois la citation des tribus d'Israël, jamais dans le même ordre. Sauf dans Genèse 37, si notre mémoire est fidèle, pour nous donner la suite des fils de Jacob. Mais à part cette citation chronologique, exacte, nous n'avons jamais les fils d'Israël cités dans le même ordre. Pourquoi? Il y a des raisons. Quelquefois, il est possible de l'en trouver. Ce n'est pas toujours facile. Mais si on demande au Seigneur, dit pourquoi Seigneur, la chose est-elle dite de cette manière? Nous, le Seigneur nous aide à comprendre pourquoi il déplace certains noms dans les bénédictions de Jacob, par exemple, qui ne sont pas du tout semblables à celles de Moïse. Vous voyez, Moïse, lui, c'est l'homme de Dieu qui bénit les fils d'Israël. Jacob, c'est celui qui annonce l'avenir à ses fils. C'est tout différent. C'est le côté humain, c'est le côté ici, le côté de Dieu. Mais Jacob va nous donner les noms de ses fils en disant leur avenir d'une manière tout différente de celui de la naissance. Il est bien celui qui connaît l'ordre de naissance de ses fils. Pourquoi change-t-il l'ordre? Parce qu'il va nous donner l'histoire passée, l'histoire présente, l'histoire à venir de ses fils à travers quatre fois trois noms. Trois noms pour le passé, trois noms pour le présent, trois noms pour l'avenir et trois noms pour parler de lui, de Christ. Judas, Joseph, Benjamin. Alors, l'ordre est changé, mais nous ne pouvons pas nous arrêter parce que c'est nous écarter. Mais vous pouvez chercher. Il y a 22 fois les noms des fils de Jacob donnés, jamais dans le même. Et ici, l'ordre n'est pas respecté. Et d'autre part, il en manque un. Il manque quelqu'un à la bénédiction. Comment cela se fait-il? Qui manque dans la liste? Nous l'avons bien remarqué. Il manque Siméon. Pourquoi? Pourquoi trouvons-nous Lévi? Ils ont été associés tous les deux dans un acte inqualifiable de cruauté en temps de paix, agissant comme des hommes, disons, emportés par le feu de la guerre. Ils ont tué des hommes, ils ont coupé les jarrets des taureaux, ils ont commis des actes abominables. Et Jacob sera épouvanté de la conduite de Lévi, de Siméon. Et comment Dieu peut-il ici nous donner tant de choses? Pour Lévi, des bénédictions extrêmement élevées, et pour Siméon, rien. Pas un mot. Siméon n'est pas nommé. Pourquoi? Eh bien, cela revient à ce que nous disions tout à l'heure. Vous voyez, Lévi, c'est un homme converti. C'est un homme est venu devant Dieu, qui a dit à l'Éternel, je ne suis qu'un misérable. Et tu dois me sauver de cet état de misère dans lequel je me trouve, asservi à la chair, à la domination de mes passions, de mes convoitises, donc il m'est impossible de me délivrer moi-même. Fais-moi grâce, Éternel. Voilà ce que Lévi a dit. Et Dieu a pardonné Lévi par un acompte pris, sur la croix de Christ. Mais Siméon, nous ne trouvons pas chez Siméon, ce mouvement du cœur, cette action de Dieu sur sa conscience, de sorte que nous revenons à ce qui a été dit tout à l'heure, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, tu n'as rien à dire à Siméon. Dieu ne peut pas bénir la chair, pas plus chez un croyant que chez celui qui n'est pas croyant. La chair ne peut plaire à Dieu, elle est encore moins tolérée, elle est encore moins tolérée, nous ne trouvons pas d'autre mot que chez le croyant, car le croyant a reçu la capacité de s'en délivrer. Ce n'est pas une chose impossible, nous savons bien que c'est difficile, mais ce n'est pas une chose impossible. Dieu ne nous demande pas de mourir. Si Dieu nous demandait de mourir, ce serait impossible. Mais Dieu ne nous demande pas de mourir. Dieu nous dit, vous êtes morts, et tenez-vous vous-même pour morts. C'est tout à fait différent. Mortifiez vos membres qui sont sur la chair, appliquez la mort à vos membres, parce que vous êtes morts. Il faut croire, il faut recevoir que vous êtes morts. Tenez-vous vous-même pour morts, car je dis, vous êtes morts. C'est tout différent. Si Dieu demande à quelqu'un de mourir, je n'ai pas assez de volonté, n'ai pas assez d'énergie morale en moi pour me faire mourir, pour vaincre ce que je suis dans la chair, vous voyez. Mais Dieu dit, la croix de notre Seigneur, il me montre la croix, il me dit, voilà, mon fils est mort pour toi, pour effacer tes péchés. Non, mais en même temps, il me dit, mais tu es mort aussi sur la croix. Je te considère comme ayant fini ta vie dans mon Adam avec Christ sur la croix. Je n'ai pas vu le Seigneur mourir sur la croix, mais je le crois. Eh bien, de la même manière, j'ai à croire, à recevoir que je suis mort. Comment m'en Adam que je suis mort avec Christ sur la croix et que désormais, je vis en nouveauté de vie nouvelle dans l'Esprit Saint, la puissance, et je tiens le vieil homme dans la mort. Eh bien, voilà le cas de Lévi, c'est un homme converti, tandis que Siméon est resté l'homme dans la chair et Dieu ne peut pas le bénir. Comme Dieu ne peut bénir personne d'entre nous qui est sur un principe charnel. Nous savons ce que Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 3 de sa première épître. Vous êtes encore charnel, dit-il. Alors que de soucis l'apôtre avait à l'égard de cette assemblée dans laquelle la chair et l'âme n'étaient pas jugées et qui se manifestait de si triste manière. Donc c'est une leçon fort importante. Mais Ruben est d'abord cité le premier, et il faut que vous choisissiez le texte, soit en note ou dans le texte. Il faut que vous choisissiez le sens, soit dans le texte, soit dans la note. C'est difficile pour nous, pour le traducteur, car il a indiqué, n'est-ce pas, à l'égard de Ruben, ou bien que Ruben vive et ne meurt pas, que ces hommes soient en petit nombre, ou bien pas en petit nombre. Voilà, nous ne pouvons pas choisir. Il faut que chacun lise et se dise, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ruben, qui a commis une si lourde faute, malgré tout, Dieu le souhaite qu'il vive. Pas en petit nombre, la grâce de Dieu qui triomphe de tout, ou bien sur le plan du gouvernement, en petit nombre. C'est à nous de choisir. Peut-être les deux choses sont vraies. L'une étant la face qui parle de la grâce de Dieu, et l'autre, le côté du gouvernement de Dieu. De toute manière, il y a donc une bénédiction pour lui-même. Mais nous arrivons tout de suite à celle de Judas. Elle est extrêmement précieuse. Car Judas a toujours été opposé à ses frères. Il y a toujours eu des guerres entre le royaume de Judas et le royaume d'Éphraïm, autrement dit des 10 tribus. Mais vous voyez, chers amis, quand on jouit de la bénédiction sur le terrain de Dieu, comme tout change. Qu'est-ce qui peut changer le caractère d'un homme? Un homme qui est vindicatif, qui est facilement irritable. Qu'est-ce qui peut le changer? Voilà, par exemple, un exemple ici, saisissant. Qu'est-ce que Jacob dit dans les bénédictions, dans les, dans les, dans,
l'histoire, c'est-à-dire dans les prophéties qu'il donne à l'égard de ce fils, de ses fils, qu'est-ce qu'il dit de Benjamin? Vous avez vu, par exemple, pour situer cela, au verset 12, ce que Moïse lui dit de Benjamin. Qu'est-ce que Jacob dit de Benjamin? Eh bien, l'exemple que nous pouvons citer, c'est Saul de Tarse. Jacob dit, Benjamin, c'est un loup qui déchire. Eh bien, nous portons tous, en fait, un caractère de famille. Nous nous rattachons à notre famille. Le caractère dominant de Saul de Tarse, il le dit, moi je suis benjaminite, puis de la tribu de Benjamin. Et son grand-père, son arrière-grand-père, son ancêtre, Jacob, a dit, Jacob, Benjamin, c'est un loup qui déchire. Est-ce que ce n'était pas un loup qui déchirait Saul de Tarse? Peut-on trouver un homme plus implacable, plus méchant que lui, plus opposé au Seigneur et aux croyants? Mais que va-t-il devenir par la grâce de Dieu? Comme Judas, nous allons le voir. Que va-t-il devenir? Vous avez vu ce que Moïse dit de Benjamin? Jacob, lui, il dit, c'est un loup qui déchire. Et le loup qui déchire, lorsqu'il a goûté le sang, il en est assoiffé, il ne peut plus s'en passer. Bête, bête cruelle entre toutes. Un loup qui déchire. Mais quand la grâce de Dieu opère, vous avez vu ce que Moïse dit? De Benjamin au verset 12, il dit le bien-aimé de l'Éternel. Voilà, dans un loup qui déchire, la grâce de Dieu fait un bien-aimé du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas l'apôtre, Paul, apôtre de Jésus-Christ, parlant à ses frères et s'occupant d'eux comme une nourrice s'occupe de ses enfants, jouissant de l'amour de Dieu de telle manière que son cœur est rempli de cet amour pour les frères, étant d'accord de donner sa vie tout de suite s'il avait fallu pour ses frères. Le bien-aimé de l'Éternel, habitant entre les épaules du Seigneur, jouissant de cette intimité, de cette communion avec lui, faisant de lui le canal par lequel Dieu peut bénir l'assemblée. Alors que c'est un loup qui déchire. Eh bien, de Judas, c'est la même chose. Dirons encore seulement quelques mots. Ceci pour Judas. Il dit, Éternel, écoute la voix de Judas et amène-le à son peuple. Écoute la voix de Judas. Autrement dit, Judas, c'est un homme qui prie. Judas, c'est un homme qui vient au pied du trône de la grâce et qui prie pour qui? Pour lui, pour ses besoins, sans doute. Mais il prie pour son peuple. Et il prie pour ses frères. Et il prie pour les 10 tribus. Et jusque-là, dans l'histoire, ils ont été... Ce sera vrai demain. Mais jusque-là, ils ont été en opposition constante. Le royaume d'Israël a toujours été en guerre avec le royaume de Juda, et nous n'avons qu'à ouvrir rapidement un prophète, nous verrons là, historiquement la réalisation de la bénédiction de Moïse, c'est dans Ésaïe 11. Nous ne pouvons pas nous méprendre, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Nous lisons de Juda dans ce verset, le chapitre 11 du prophète Ésaïe, vous voyez, au verset 12 par exemple. Au verset 13, la jalousie d'Éphraïm s'en ira, les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm, regardons bien cette phrase, Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas ou ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Donc Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Il n'y aura plus d'antagonisme entre ces deux factions du peuple de Dieu. Éphraïm ne fera plus la guerre à Juda, et Juda ne fera plus la guerre à Éphraïm. N'est-ce pas extraordinaire cette leçon? Eh bien, voilà ce que la grâce de Dieu peut faire. Juda, écoute, Éternel, écoute la voix de Juda, amène-le à son peuple, qu'il combatte de ses mains pour lui, et combatte de ses mains, n'est-ce pas élever des mains saintes, sans colère et sans raisonnement? Qu'est-ce que c'est que de combattre de ses mains? C'est bien dans l'attitude de la prière que nous réalisons cela, qu'il combatte de ses mains pour lui, pour lui, et nous lisons la note, c'est-à-dire pour le peuple. Il ne pense pas seulement lui-même, l'égoïsme disparaît du cœur. Quand la grâce de Dieu opère, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est tout à fait l'opposé de l'égoïsme. Le caractère d'amour de Dieu, c'est qu'il ne comporte pas d'égoïsme. L'amour humain est toujours égoïste. J'aime quelqu'un parce que j'ai du profit à l'aimer, parce que j'ai de la satisfaction à l'aimer, et je reçois en retour quelque chose de celui que j'aime. Mais Dieu aime parce qu'il est amour, trouve en lui-même, dans son cœur, des motifs pour nous aimer. Pas d'égoïsme dans le cœur de Dieu. Bien, chez Judas,
Il n'y a plus d'égoïsme, l'amour de Dieu versé dans le cœur, c'est tout différent. Il prie pour ses frères, ceux qui lui étaient opposés et irréconciliables. Il n'y a jamais eu moyen de que le schisme soit guéri. Eh bien, il le sera demain, et Judas se mettra à genoux pour prier pour ceux avec lesquels il était en guerre pour cela. N'est-ce pas un beau fruit de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut unir des frères? Nous savons bien combien nous sommes différents, par toutes sortes de raisons, mais qu'est-ce qui peut nous unir ensemble? Eh bien, n'est-ce pas, en nous agenouillant ensemble au pied du trône de la grâce, réalisons nos besoins, notre misère à chacun, et implorant Dieu pour que nous jouissions ensemble de toute la bénédiction qu'il veut répandre sur nous. C'est ce que Judas fait. Voilà les bénédictions que Moïse cherche, demande et propose au peuple de Dieu. Enfin, pour Lévi, on n'a plus le temps, il faut cesser. Pour Lévi, c'est un cas très particulier. De si méchant qu'il était, le voilà élevé maintenant à s'occuper de l'autel, à présenter l'Holocauste, à enseigner Israël. Il est élevé aux plus hautes fonctions. Et il a montré les fruits de la conversion comment? Comment? Il les a montrés dans une attitude sans doute la plus difficile qui soit pour chacun d'eux. Nous sommes sûrs de ne pas nous tromper en disant cela. Ne pas reconnaître son père. Donc, quand Moïse a dit, qui est pour l'Éternel? À moi, qui est pour l'Éternel? Qu'est-ce que Lévi? La preuve qu'il est converti, qu'il aime le Seigneur, il dit, mais moi, me voilà. Il sort son épée. Mais ce n'est plus pour tuer son semblable, c'est pour mettre son épée au service de l'Éternel. Qui est pour l'Éternel? À moi, celui qui est pour l'Éternel. Quand l'iniquité a rempli le pays, que le peuple est souillé et que le jugement doit s'exécuter. Lévi sort son épée, mais c'est pour la mettre au service de Dieu. Et qui va-t-il faire passer par le fil de l'épée? C'est terrible, jeune ami. Mais voilà, ce sont les droits de Dieu. Il va faire passer son père et sa mère, moralement parlant, vous voyez ce que la parole de Dieu dit, son père et sa mère, son frère et ses fils. Pour nous, Dieu n'efface jamais les relations dans lesquelles il nous a placés dans le cadre de notre famille. C'est un renversement ignoble aujourd'hui, ce que l'on entend à l'égard des parents dans le monde. Vous savez bien que cela est la fin d'une civilisation. La famille qui est ainsi profanée jusque dans ce qu'elle a de plus élevé pour Dieu, de plus valable pour Dieu, la société ne peut plus subsister. Le prophète Isaïe nous montre dans un passage que lorsque nous touchons à ces fondements, c'est la fin. Et le toucher à ces fondements, le péché de toucher aux fondements que Dieu a établi, ceux de la famille notamment, comporte en soi son propre jugement. Il n'y a même pas besoin que Dieu juge. Nous attirons sur nous, dans les conséquences qui sont attachées à nos actes, notre propre jugement. Mais cela, Dieu n'efface jamais, n'oublie jamais ce que nous devons à nos parents, à notre père, à notre mère. Mais il y a des droits supérieurs, tout en respectant ceux de nos parents. Et quelqu'un qui est placé dans ces conditions-là, c'est une position difficile. Mais la grâce de Dieu permettra de maintenir ce qui est dû aux parents, à son père et à sa mère, dans le respect que Dieu attend de chacun de nous, et en même temps de donner au Seigneur ce qui lui revient, c'est-à-dire ce qui est supérieur à toi. Eh bien, Lévi a trouvé cela, a pu faire cela, n'a pas connu son père ni sa mère, ceux qui sont au-dessus de lui, n'a pas connu ses frères, ceux qui sont sur le même niveau que lui, et n'a pas reconnu ceux qui sont en-dessous de lui. Mais n'est-ce pas très difficile de réaliser une chose pareille? C'est-à-dire placer les intérêts du Seigneur, la parole de Dieu au-dessus de tout, sans se laisser fléchir par les sentiments humains. Voilà le cas de Lévi. C'est extrêmement difficile, mais c'est le chemin de la bénédiction pour Lévi, et c'est ce qui lui ouvre les perspectives les plus hautes. Approcher de l'autel, offrir l'Holocauste, le plus dans tout ce qu'il a de plus élevé, parce que c'est un homme dégagé de la chair et qui a réalisé dans sa vie les droits de Dieu. Pour jouir de tout ce que nous avons avec Joseph. L'homme est devenu, absolument, de tout ce qu'il y a de plus précieux. De tout ce qu'il y a de plus précieux, c'est par Joseph, celui qui a été mis en part et qui a été jeté dans la fosse. Ils ont